Vous écoutez
RMC.
6h30 sur RMC et RMC Story. Excellent réveil à vous tous, le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. L'événement ce matin, Elisabeth Borne, l'invitée de RMC à quelques heures de la présentation du projet de loi de finances et du budget de la Sécu, se mêle à haut risque pour le gouvernement. Ce coup de tonnerre politique, l'extrême droite en tête des législatives en Italie, entre 40 et 45% des voix selon les estimations, et ce coup de froid pour la France en football, battu 2-0 au Danemark à 2 mois seulement du Mondial.
Et c'est donc sur RMC que le marathon commence pour le gouvernement.
Avec la Première Ministre Elisabeth Borne, invitée de RMC et de vous au 32-16 de 8h15 à 9h ce matin, avant la présentation donc très attendue des projets de loi de finances et du budget de la Sécu, avec aussi cette journée de grève jeudi en perspective. Voilà donc dans quel contexte la Première Ministre va lancer la semaine en quelque sorte ce matin sur RMC. Elle qui a la particularité d'être moins connue que le Président, mais plus populaire. La preuve, écoutée avec Nicolas Trénaud à Meaux en région parisienne. Parisienne, près de Paris pour RMC.
Première étape au bar tabac Saint-Rémy, où peu de clients connaissent son nom ou son visage photographié en pleine page dans le journal du jour.
C'est la Borne.
Raté.
Comment elle s'appelle elle? Non, mais c'est qui elle? Attends,
je... Elisabeth Borne est plus connue chez le coiffeur.
Bonjour.
Les deux clientes l'identifient très bien. Il y a Ginette, cheveux courts.
Il y a un petit air, non, avec votre type de cheveux?
Si je ressemble, c'est pas le compliment.
Elle est assez sévère, mais bon, elle a l'air assez sérieuse quand même.
Cette image négative, pour certains, n'est pas un inconvénient pour tout le monde.
Elle a l'air assez stricte avec ses collaborateurs. C'est quelqu'un qui est plutôt droit dans ses bottes, dans ses idées. C'est plutôt un atout.
Avec de plus en plus d'opinions favorables, la Première Ministre grimpe dans les sondages et rattrape le Président.
Elle a les compétences et la bonne posture.
Et sa méthode, répétée dans toutes les interviews, la concertation, consultée au-delà de son propre camp, Nathalie apprécie l'idée.
S'il n'y a pas de communication, on ne va pas avancer. Moi, ça me plaît.
L'électrice de gauche à la table derrière ne croit pas à cette ouverture.
C'est le bon petit soldat de M. Macron.
Persuadée que la Première Ministre, présentée comme la caution de gauche du gouvernement, n'aura pas souvent le dernier mot face au Président.
Alors sera-t-il question des retraites aujourd'hui? A priori non, pas dans le texte qui sera présenté par le gouvernement en tout cas. Et Pierrick Bonneau du service politique et RMC, vous nous dites ce matin que le gouvernement n'est pas certain du tout d'avoir la majorité.
Oui, avec ou sans cet amendement sur les retraites, ce texte va mettre au jour toutes les fractures au sein de la nouvelle Assemblée, car au-delà des motions de censure de la France Insoumise et du Rassemblement National, si jamais la réforme des retraites s'invitait dans les débats, plusieurs points du budget vont enflammer les discussions. La NUPES et le RN font notamment pression en faveur d'une taxe sur les super-profits face à une majorité divisée sur la question. La question des collectivités également, elles sont confrontées à des factures énergétiques qui explosent et leur financement va faire partie des points très chauds des débats, selon le rapporteur général du texte. Sur toutes ces questions, la majorité va devoir se chercher des alliés dans l'hémicycle, notamment chez les Républicains, Républicains particulièrement tatillons hein, sur les questions budgétaires.
Il est 6h33, vous écoutez RMC et après la Suède, il y a 2 semaines, c'est donc en Italie que l'extrême droite fait une percée historique en arrivant en tête des élections législatives. La coalition donnée entre 40 et 45% des voix selon les estimations. C'est la première fois depuis 45 qu'un parti issu du fascisme est aux portes du pouvoir, avec pour programme des baisses d'impôts, la défense des familles dites naturelles, le blocage aussi des bateaux de migrants. La chef de cette coalition, Giorgia Meloni, a pris la parole dans la nuit pour revendiquer la victoire devant ses soutiens comme Rosanna, qui espère du changement maintenant en Italie.
Je suis vraiment heureuse parce que j'attendais ça. J'étais anxieuse depuis 2 jours. Elle est patriotiste, elle est nationaliste. Moi, je sens tout ça dans mon cœur. La première chose, le plus que je veux, c'est vraiment ce qu'il a dit d'abaisser les impôts. Pour les entreprises, c'est très difficile parce que les impôts sont très hauts. Elle n'a pas eu la chance de le faire parce qu'elle a toujours été à l'opposition toute seule. Je crois qu'elle mettra en plein tout ce qui était sur ce programme. On est vraiment au début d'une nouvelle histoire pour l'Italie.
La journée s'annonce tendue à Saint-Étienne, la ville, vous le savez, secouée depuis cet été par cette affaire du chantage à la sextape, affaire qui implique le maire Gaël Perdriau, un de ses adjoints qui vient de démissionner, et un ancien élu filmé à son insu dans un hôtel parisien avec un escort boy. La colère gronde à Saint-Étienne, c'est ce que nous dit Vincent Chevalier sur place pour RMC.
Dans les rues de Saint-Étienne, le sujet agace. Les habitants voudraient rapidement passer à autre chose.
Ça me dégoûte un peu, ouais, ces histoires et tout. Je pensais pas de ça, quoi. Pourtant, c'est un maire.
Il a fait beaucoup de choses pour Saint-Étienne, je pense. Hein. Il y a eu un bon démarrage. Après maintenant, moi, à sa place, je démissionnerai.
Des nouvelles élections, ça serait préférable pour tout le monde.
Une démission demandée par l'opposition. Selon Pierrick Courbon, conseiller municipal, le maire ne peut plus assurer ses fonctions sereinement.
Il règne un climat, vous l'imaginez, absolument délétère, parfaitement malsain au niveau de l'hôtel de ville et de la métropole.
Et encore une fois, si on aime cette ville, si on aime la démocratie municipale, on ne peut pas accepter que cette situation pourrisse comme elle est en train de le faire.
De son côté, la majorité se fissure. 9 élus avaient demandé à Gaël Perdriot de se mettre en retrait de ses fonctions. Chose faite depuis jeudi, mais ça ne suffit pas pour l'un de ses adjoints.
Je me mets en retrait, mais ça veut rien dire dans la vie politique, le retrait.
Lionel Boucher, chargé des animations.
Soit tu gardes tes responsabilités, ton bureau, ta signature, tes indemnités, soit tu te dis, je me suis mis à la faute, maintenant pour assurer ma défense, il faut que je démissionne.
Une manifestation se tiendra devant l'hôtel de ville quelques minutes avant le début du conseil municipal.
Cette question ce matin, le procès du drame de Mias va-t-il reprendre comme prévu aujourd'hui à Marseille? Procès suspendu en fin de semaine dernière depuis que la conductrice a été victime d'un infarctus, placée en soins intensifs à l'hôpital à Marseille. Elle était interrogée sur la collision entre son car scolaire et un TER qui a tué 6 collégiens à un passage à niveau il y a maintenant 5 ans. Pas certain du tout qu'elle soit au tribunal. Aujourd'hui, des examens médicaux sont prévus et si elle n'est pas là, eh bien l'avocate des parties civiles, Marie Mescam, compte demander un report du procès.
Le fait qu'elle doit faire face aujourd'hui est indispensable pour les victimes. Elle ne peut pas s'esquiver. Depuis 5 ans, elle s'esquive, elle tient un discours qui est quasi automatique, à savoir les barrières étaient baissées, je n'ai rien fait, je ne suis pas responsable, ce n'est pas moi. Donc elle a ce discours quasi automatique depuis maintenant près de 5 ans. Cette défense est de plus en plus difficile à être soutenue, et ce qui fait qu'au bout d'un moment, elle va devoir faire face. Et c'est ce qu'on lui demande, de faire face.
Le décompte est lancé ce matin. On est à 57 jours précisément de la Coupe du Monde de football au Qatar et les Bleus nous ont inquiétés beaucoup hier soir. Un battu 2-0 au Danemark dans le cadre de la Ligue des Nations. Alors la relégation était évitée dans cette compétition, mais l'essentiel était ailleurs. C'était la dernière sortie, même le dernier rassemblement des Bleus avant le Mondial. Alors peut-on avoir confiance ou faut-il s'inquiéter avec cette défaite 2-0? Question posée au milieu Aurélien Tchouaméni qui a tenté de donner des explications hier soir.
Déficit de confiance, je pense pas, parce que tout était tout beau, tout rose, il y a encore 24 heures. On venait de battre l'Autriche en faisant un bon match collectif. Aujourd'hui, c'est sûr que on n'a pas été bon, mais je suis sûr qu'à la Coupe du Monde, l'équipe de France sera nettement meilleure. Je suis sûr que lors du match contre le Danemark à la Coupe du Monde, ce sera un tout autre match. Il y aura d'autres paramètres à prendre en compte et on fera les comptes à la fin.
Et puis le réveil du volcan à Clermont qui s'est imposé 22-13 hier soir contre La Rochelle pour la fin de la quatrième journée de Top 14 de rugby. C'est la première défaite de la saison pour les Rochelais et c'est Toulouse qui est leader du championnat ce matin.
On peut rien dire sur La Rochelle, de toute façon, c'est
rien du tout.
Avec Quentin, c'est
ils ont perdu Quentin hier
c'est
soir.
Trop sensible.
Première défaite de la saison, ça va, il y a pire, il y a trois équipes qui se dégagent en tête du championnat.
Le quintet Quentin, c'est à Lyon Paris.
13h50 en début d'après-midi sur RMC Découverte, ça on peut en parler. Le 16, le 13, ce sont les pronostics de la Dream Team des courses RMC aujourd'hui. Le 16 en favori Elis Kaberi, le 13 en outsider Elan Baroque.
C'était le journal de Quentin Vinet, le Rochellois. Il est 6h37 sur RMC.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
C'est votre avis dans un instant. Je vous attends au 32-16 autour de cette question. Est-ce que la réforme des retraites sera l'étincelle qui va mettre le feu aux poudres? Rentrée sociale dès jeudi avec une première manifestation. Est-ce que vous êtes prêts à vous mobiliser contre cette réforme? Ou alors, est-ce que ça n'est tout simplement pas votre priorité? Venez témoigner, débattre. Le standard vous est ouvert. Venez me transmettre vos questions, vos témoignages pour la Première Ministre Elisabeth Borne. Je vous rappelle qu'elle sera mon invitée dès 8h15 sur RMC.
RMC Police Justice.
Mais avant cela, et comme chaque jour, RMC PJ tous les matins, une histoire repérée par le service police-justice d'RMC. Et bien ce matin, écoutez bien, on vous parle d'un délinquant fiché S, surpris en train de recharger la machine à café d'un commissariat parisien, Guillaume Biais.
Ouais, et imaginez la tête du policier qui s'en est rendu compte. Dans son propre service d'enquête, il va à la machine pour se prendre un café. Et là, il reconnaît aussitôt l'un des deux employés qui sont en train de réalimenter le distributeur. Le policier avait vu cet homme en garde à vue il y a quelques mois pour trafic de drogue. Ensuite, il a été condamné à un an de prison. D'ailleurs, il porte encore un bracelet électronique à la cheville. Mais surtout, cet homme est aussi fiché S, considéré comme dangereux, violent, depuis 2019, où il avait été arrêté avec des cocktails Molotov dans son sac lors d'une manifestation de gilets jaunes. Alors, le voir là, travailler en plein commissariat, c'était un peu fort de café pour le policier qui a prévenu sa hiérarchie. Normalement, tous les prestataires extérieurs qui travaillent comme ça dans les lieux sensibles font l'objet de vérifications avant d'être autorisés à accéder, à avoir un badge. Mais d'après nos informations, cet employé de 32 ans, qui est en réinsertion, qui par ailleurs est pompier volontaire, eh bien lui, il était tout nouveau dans l'entreprise, il n'avait pas encore été déclaré à la préfecture par son patron. Il est d'ailleurs en formation. Il était accompagné ce jour-là par son responsable. Le préfet de police tirera toutes les conséquences de cette affaire, nous ont fait savoir ses services. Ça veut notamment dire que désormais, eh bien, ce salarié ne pourra plus intervenir dans les commissariats. Il n'aurait d'ailleurs jamais dû y entrer, estiment un peu amers les policiers.
Guillaume Bien, chef du service police-justice d'RMC.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Bienvenue sur RMC 6h42.
C'est votre avis.
Et c'est une date scrutée de près par le gouvernement, je peux vous dire. Jeudi, la CGT appelle à une grande manifestation pour réclamer de meilleurs salaires et surtout dire non à une réforme des retraites. Et vous, est-ce que vous seriez prêt à aller manifester jeudi ou plus tard d'ailleurs contre cette réforme? La réponse au micro RMC de Mathieu Limongi.
Moi, je serai dans la rue, ouais, c'est assez clair. Je suis dans un métier assez compliqué. C'est trop dur d'aller jusqu'à 65, c'est très compliqué.
Si c'est un métier qui vraiment ne t'intéresse pas forcément, où tu travailles juste pour avoir un salaire, ça coince, le passage en force pose problème.
Ça pourrait commencer, pourquoi pas, se mobiliser. Moi, je suis auxiliaire de périculture, donc 42 ans auprès des enfants. Mal au dos, mal partout, on est fatigué, quoi.
Et à 6h42, il y a Laurent qui nous appelle de Carpentras. Bonjour Laurent.
Bonjour Apolline.
Mais bonjour Laurent.
Vous allez bien?
Mais ça va très bien. Bah, il vaut mieux que ça aille bien parce que j'ai une matinale un petit peu intense quand même ce matin.
Oui.
Voilà. Et j'ai révisé mes classiques sur le budget, sur la retraite, mais je vais essayer de l'entraîner aussi sur d'autres sujets. Hein. La première ministre sur la question de l'état de la France, de la sécurité, de l'énergie. Mais Laurent, moi, ce que je voudrais dès maintenant avec vous, c'est poser le décor sur la question des retraites. Vous êtes chef d'entreprise hein, dans la restauration, c'est ça?
C'est ça. Vous avez
combien de salariés?
J'ai en tout, nous sommes 6 salariés.
6 salariés. Et cette réforme des retraites, vous vous dites, faut qu'elle passe maintenant?
Disons que ça fait longtemps, à mon avis, qu'elle aurait dû passer depuis les gouvernements précédents. Mmh. On est toujours acculé au pied, toujours en France, hein, sur ces lois-là, sur ces retraites, sur ces réformes. On attend. Que ce soit Macron, que ce soit s'il y avait eu Marine Le Pen au pouvoir, ou représentants politiques, ils ont réussi la réforme de la retraite. Alors de quelle manière, comment, pourquoi, ça c'est autre chose. Oui, ce qui m'inquiète un petit peu quand même, c'est que ils prennent pas en compte les pénibilités de travail. Je pense que là il faut vraiment poser maintenant tout à plat sur la réforme des retraites, sur la pénibilité du travail de chaque corps de métier. On peut pas faire une retraite générale pour tout le monde, c'est pas possible.
C'est pas prévu d'ailleurs. Alors c'est tout le problème, je vais vous dire en fait, Laurent, c'est que ça va dépendre, j'espère qu'elle me donnera la réponse tout à l'heure, Elisabeth Borne, ça va dépendre de la méthode, c'est-à-dire que si ça passe par un petit amendement un peu en loose dé, glissé dans le budget de la Sécu, c'est sûr qu'il n'y aura pas tous ces détails et que ce ne sera pas un grand débat. En revanche, si c'est une loi en début d'année prochaine, là, comme vous dites, on pourra tout mettre sur la table. J'ai l'impression que c'est ce que vous préféreriez, Laurent, vous vous dites, il faut...
Alors, non seulement mettre donc la pénibilité du travail, mais le travail, en fait, au centre, parce que on peut plus aussi. Moi, je cotise, j'ai cotisé pendant 26 ans, je travaillais donc sur les bateaux, j'ai cotisé pendant 26 ans,
ouais,
pour ceux qui sont à la retraite. D'accord? Là, on est dans un système où maintenant, il y a beaucoup de gens qui profitent de ce système-là, mais comment ils vont faire, eux, pour cotiser pour nous après? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on est... Voilà, et donc je pense qu'il faut remettre aussi le centre du
après,
travail.
En ce moment, il y a un débat aussi sur la question même de la valeur travail. C'est une autre question, mais au fond, les gens sont-ils prêts à travailler plus longtemps alors que même aujourd'hui, ils sont... Pas forcément prêt à travailler beaucoup plus. Emmanuel Le Chip voudrait réagir aussi, Laurent.
Non, parce que Laurent, le problème sur la pénibilité, c'est qu'à chaque fois, on renvoie aux négociations entre partenaires sociaux, c'est-à-dire syndicats des salariés et syndicats des patrons, et que moi, ça fait 30 ans que je suis journaliste économique, ça fait 30 ans qu'on essaye de faire avancer le débat et qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur qu'est-ce que c'est que la pénibilité, est-ce qu'on la définit par entreprise, est-ce qu'on la définit par secteur, et qu'est-ce qu'on met en place comme système, c'est très...
Et si je peux en témoigner, Charles, c'est typiquement une usine à gaz. Moi, je travaille depuis des années la nuit, et là, depuis quelques années, on nous a mis en place un compte pénibilité. Donc tous les ans, en fin d'année, je reçois un courrier qui me dit, cette année, vous avez gagné 4 points de votre compte pénibilité. Je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire, de ce que ça vaut.
Très concrètement, c'est quoi ces 4 points?
J'en sais rien.
C'est des points de tombola?
Ouais, exactement. Et surtout, j'ai bien compris qu'avant ma retraite, il y aura eu 10 réformes d'ici là, que ces points, ils vont disparaître, et qu'est-ce qu'ils vaudront à ce moment-là? C'est très complexe. Et puis,
c'est un petit peu comme si tu surcotisais.
Oui, mais voilà. Est-ce que c'est plus pénible de travailler la nuit, de travailler sur un bateau?
C'est bien ça le problème.
Laurent, juste un dernier point. Quand vous dites pénibilité, vous qui travaillez dans la restauration, qui avez, j'imagine, des gens qui font des horaires longs, qui a aussi un peu de manutention, est-ce que vous considérez, par exemple, qu'il y a des métiers de la restauration qui font partie des critères de la pénibilité?
oui, bah moi j'ai l'avantage, j'ai choisi d'ouvrir que le midi, donc et de fermer le dimanche. C'est un choix personnel et familial aussi. Ouais. Mais la pénibilité, oui. Quand moi je travaillais plus jeune et qu'on faisait jusqu'à minuit, 1h, 2h du matin, qu'on se levait le matin à 6h et qu'on faisait ça tout le non-stop, quoi, pratiquement non-stop. Ouais. Oui.
Voilà ce qui devrait être pris en compte. Comme quoi chaque parcours de vie, parce que vous, votre parcours, Laurent, quand vous parlez aussi de votre parcours sur les bateaux, tous ces parcours de vie sont très différents. Comment trouver la finesse de lecture de chacun avec la pénibilité? Merci en tout cas, Laurent, d'avoir posé le décor. Laurent, qui est donc favorable à cette réforme, mais une réforme que l'on puisse faire vraiment complète avec une vraie discussion, une vraie réflexion. À 6h47, on va aussi accueillir Philippe, qui voudrait me faire part d'une question pour Elisabeth Borne. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour.
Philippe, vous êtes gérant, c'est ça, dans l'Isère?
Oui,
gérant de quoi?
D'une petite entreprise d'imprimerie.
D'accord. Et qu'est-ce que vous demanderiez à Elisabeth Borne?
Ben voilà, donc j'ai eu mon conseiller Total Direct Énergie vendredi.
D'accord.
Donc il m'annonce ce que je vais payer donc sur 2022. Donc en 2021, sur deux mois, donc novembre-décembre, je payais à peu près 2 800 € d'électricité. Mmh. Et donc sur 2022, il m'annonce 16 000 €.
Alors attendez, vous passez pas de 2 000 à 16 000?
Non, sur deux mois, je vous dis.
D'accord.
2 700 et je passe à 16 000. Et sur deux mois.
Vous passez de 2 700 à 16 000 pour la même durée de temps.
C'est ce qu'il m'a annoncé vendredi.
Mais Philippe, comment vous avez réussi à dormir ce week-end?
Je sais pas comment on va faire, je sais pas, on verra. Donc c'est plus de multiplier par 10.
C'est ça, c'est plus de multiplier par 10. Et c'est voilà.
C'est novembre-décembre.
C'est vos mois les plus chargés.
Bah, nous on a besoin d'électricité, on chauffe, on a des machines qui consomment de l'électricité, hein, donc voilà.
Est-ce que vous avez signé, demande Emmanuel.
Comment?
Est-ce que vous avez signé?
Non, pour le moment, non.
Non. Mais cela dit, moi, c'est une question d'ailleurs que je pose autant à Emmanuel Le Chypre qu'à vous. Philippe, quand on entend Emmanuel Macron, la semaine dernière, qui dit au patron de TPE, ne signez pas ces contrats exorbitants, moi je veux bien, mais si Philippe, il signe pas, il fait quoi, Emmanuel?
Après, faut peut-être voir d'autres fournisseurs, faut voir peut-être les contrats, je sais pas, là, donnez-vous quelques jours pour. Votre conseiller, vous lui dites que vous changez, je sais pas. J'ai pas la réponse.
Ça me pose un vrai problème. J'ai entendu l'injonction d'Emmanuel Macron presque à une forme de désobéissance à toutes ces demandes folles de prix, de factures d'électricité. Et il dit au patron de TPE, tout comme vous, Philippe, vous êtes exactement le profil. Il dit ne signez pas, n'acceptez pas ces prix exorbitants. Moi, je veux bien, mais Philippe, il va pas se retrouver tout d'un coup à plus avoir d'électricité.
Non, mais il peut changer de fournisseur.
Ouais, mais vous croyez qu'il y aura beaucoup de fournisseurs qui vont lui faire
changer? Il faut voir auprès de... C'est Total Energy, il faut voir auprès d'EDF, par exemple.
Mais franchement, il y a quand même un gros flou. Philippe, votre question, croyez bien que je la porterai tout à l'heure à Elisabeth Borne. Comme Philippe, vous m'appelez au 3216 pour témoigner et pour demander très concrètement à la Première Ministre toutes vos questions. Ce sera dès 8h15 sur RMC. Mais pour l'heure, il est 6h50.
RMC, Apolline Matin.
Il est 6h51, notez bien le programme de la matinale. On va rire bien sûr, Arnaud Demange sera avec nous à 7h20. Et notez-le bien, ce matin exceptionnellement, il sera là à 8h10, juste avant mon interview d'Elisabeth Borne. Notez-le également, interview événement, Elisabeth Borne, la Première Ministre, qui répond à mes questions mais aussi aux vôtres. Au 3216, vous me soumettez vos questions et vos témoignages pour faire l'interview avec moi. Ce sera dès 8h15 sur RMC. On va parler aussi insécurité, ce sera l'un des thèmes de l'interview justement à 7h10. Nous partirons à Nantes avec une restauratrice dont les serveurs ont désormais des bombes lacrymogènes à la ceinture. Elle sera notre témoin du jour. Elle témoigne d'une situation d'insécurité omniprésente à Nantes désormais. Il est 6h52.
RMC, Apolline Matin.
Le portrait du jour.
6h52 et c'est le portrait du jour, Nicolas Poincaré. Cet inceste qui explique en partie le parcours de Corinne Massiero dont vous nous dressez le portrait ce matin.
Oui, parce que cette femme témoigne ce soir dans un documentaire d'Andrea Rawlings qui passera sur France 3 vers 23h. Et parmi elles, donc, Corinne Massiero, cette comédienne qui est à part dans le cinéma français. Elle raconte avoir été violée lorsqu'elle avait 6 ou 7 ans par un cousin qui avait 10 ans de plus qu'elle, un traumatisme qu'elle a refoulé pendant presque 50 ans et qui est revenu pendant le confinement comme un flash violent et dont elle a décidé donc de parler publiquement maintenant parce que pour elle c'est un devoir. Parmi les messages qu'elle veut faire passer, il y a celui-ci. On apprend aux enfants qu'il faut se méfier des inconnus. On devrait aussi leur apprendre à se méfier de leurs pères, de leurs oncles, de leurs cousins, puisque 80% des viols ont lieu dans un cadre familial.
Et elle considère que cet inceste, il a frappé tant sa vie qu'il explique en grande partie son parcours.
Oui, parce que pendant ses premières années, ses années de galère à partir de 15 ans, elle a connu l'alcool, la cocaïne, l'héroïne. Elle avoue avoir vendu de la cam, avoir dormi dans sa voiture, avoir fait des tapins à la sauvette. Longtemps, elle expliquait que c'était lié à des histoires d'enfance, sans vouloir préciser lesquelles. Désormais, elle le dit. Finalement, c'est le théâtre qui l'a sauvée. Elle l'a découvert à Roubaix, un peu par hasard, alors qu'elle avait 28 ans. La suite est connue, une carrière avec des rôles populaires à la télé, Capitaine Marlowe ou bien Fais pas ci, fais pas ça, mais aussi des rôles dans des films ambitieux de Patrice Chéreau, de Jacques Audiard. Au César en 2020, elle dénonce sur scène ce qui domine, c'est-à-dire les hommes blancs, hétéros, bourgeois, catholiques et de droite. L'année suivante, toujours au César, elle se met à poil sur scène pour montrer le corps d'une femme de 56 ans qui ne correspond pas au canon de la beauté. Ce que l'on comprend aujourd'hui, c'est que ce viol qu'elle a subi enfant a aussi effectivement influencé toute sa carrière, puisqu'elle dit qu'elle a fait de sa laideur un fonds de commerce. Elle ne voulait pas séduire. Elle a, je cite, « décidé d'être moche pour être certaine de ne plus attirer les agresseurs ». Et aujourd'hui, eh bien enfin, elle dit qu'elle se sent belle.
Un témoignage bouleversant donc de Corinne Massiero. Les histoires de Charles.
Les histoires de Charles.
Cette question qui fait grande polémique, oui. Charles. Quelle est la capitale de la pétanque ?
C'est l'INSEE qui a mis le feu aux poudres. Le très officiel Institut des statistiques a publié une étude intitulée « Dénombrement des équipements en 2021 ». On y constate que la ville française qui compte le plus de boulodromes ne serait pas Marseille, mais Toulouse. 101 boulodromes recensés par l'INSEE à Toulouse, qui est en première place devant Reims et ses 86 boulodromes. Marseille n'est que troisième avec à peine 77 terrains de pétanque. Et ça n'a pas du tout plu aux Marseillais interrogés par BFM TV.
Pour nous, à Marseille, on est tombé dedans. C'est un peu comme Obélix, quoi.
La pétanque, ce sont nos gènes, notre patrimoine. Bon, c'était un sport qui fédère beaucoup de générations.
Et la grogne a été telle la semaine dernière à Marseille que nos confrères de la Provence ont mené une contre-enquête. Résultat, ils ont trouvé 144 terrains de pétanque recensés par la mairie. En fait, on apprend que seuls les terrains déclarés au ministère ont été recensés par l'INSEE, alors que la mairie en compte 144. Résultat, selon les Marseillais, ils sont bien à la capitale de la pétanque, mais les Toulousains, de leur côté, sont très fiers du classement de l'INSEE. Alors, comment trancher définitivement ce dilemme ? Eh bien, toujours sur BFM TV, ce Marseillais a une idée.
Ça va se régler, effectivement, les boules à la main.
Voilà, un bois de pétanque entre Toulousains et Marseillais. Voilà, une belle idée pour trancher et déterminer la capitale française
de la
pétanque.
Toutes les études de l'INSEE sont aussi peu sérieuses, c'est un peu flippant quand même.
Bah, l'INSEE a
recensé je parle sous votre contrôle, Emmanuel Le Chip, qui a quand même la passion des études. L'INSEE, habituellement,
l'INSEE, ils ne peuvent pas aller jusque dans chaque rue de Marseille comptabiliser le moindre terrain de pétanque.
Moi, je suis désolé, vous faites une étude.
On va tous se mettre d'accord, le pays du monde où on joue le plus à la pétanque, vous savez lequel c'est ?
C'est la France.
C'est la Thaïlande.
Oh non ! Mais non !
J'allais dire le Vietnam. C'est une des questions les plus célèbres du trivial poursuite.
Ouais. Bon allez, ça mettra peut-être pas tout le monde d'accord, mais c'est dit, il est 6h56. A tout de suite pour la météo et le journal. On sera évidemment dès le début du journal de 7h en Italie avec la victoire de Fratelli Italia.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Lundi 26 septembre.
L'info sur RMC.
Il est 7h, excellent réveil à vous tous qui nous écoutez sur RMC, qui nous regardez sur RMC Story. C'est l'heure du journal de Marguerite Dumont. Bonjour Marguerite.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. L'extrême droite s'installe en Italie, victoire nette du parti de l'ultra-conservatrice Giorgia Meloni aux élections législatives. Romain Cluzel nous attend en direct à Rome. Semaine à risque pour Elisabeth Borne, budget, réforme des retraites, la première ministre et l'invité exceptionnel d'RMC ce matin. Le foot, les Bleus inquiètent hier face au Danemark, défaite 2-0 à 2 mois du 4.
En Italie, Giorgia Meloni a remporté son pari. L'extrême droite arrive au pouvoir.
Un parti issu du fascisme prêt à gouverner. Ça n'était pas arrivé depuis la Seconde Guerre mondiale en Italie. Giorgia Meloni a pris la parole cette nuit pour revendiquer sa victoire et tenter de rassurer aussi.
Il est important de comprendre que si nous sommes appelés à diriger ce pays, nous le ferons pour tous. Nous le ferons pour tous les Italiens. Nous le ferons dans le but d'unifier ce peuple, de souligner ce qui l'unit plutôt que ce qui le divise. Quand cette nuit sera terminée, nous devons impérativement nous rappeler que cette élection n'est pas un point final. Nous ne sommes qu'au point de départ. C'est dès demain que nous devons prouver notre valeur.
On retrouve notre envoyé spécial RMC à Rome, Romain Cluzel en direct. Romain, la coalition d'extrême droite s'assure une majorité absolue au Parlement.
Oui, c'est une victoire assez nette pour Giorgia Meloni et son parti Fratelli d'Italia qui remporte plus d'un quart des voix, et en ajoutant les deux autres membres de sa coalition, on arrive à 44% des voix, ce qui est suffisant pour obtenir la majorité absolue au Parlement. Vraisemblablement, le gouvernement italien sera donc dirigé pour la première fois par une femme, et pour la première fois, un parti issu du néofascisme remporte l'élection. Giorgia Meloni a passé une grande partie de la campagne à tenter de rassurer malgré sa volonté de renégocier les accords européens ou encore de restreindre l'accès à l'avortement.
Romain Cluzel, une autre question. Giorgia Meloni se dit prête à prendre la tête du gouvernement. On l'a entendu il y a un instant. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ?
Alors, tout va s'enclencher dans deux semaines, le 13 octobre pour être précis. Ce jour-là, le nouveau Sénat et la nouvelle Chambre des députés vont se réunir pour la première fois. Là, le président de la République italienne, Sergio Mattarella.
Romain Cluzel en Italie pour couvrir ces élections pour RMC. Petit problème de réseau. Romain Cluzel depuis l'Italie. Merci beaucoup. On en vient à la révolte des femmes en Iran. 10 jours de lutte, 41 morts. Nous n'aurons aucune indulgence avec les manifestants, disent les autorités. À Paris, la police a dispersé les manifestants anti-répression. Ils étaient 1 millier environ pour les empêcher d'atteindre l'ambassade d'Iran. Un rendez-vous à ne pas manquer ce matin sur RMC. Elisabeth Borne est l'invitée exceptionnelle d'Apolline de Malherbe. Dès 8h15, la Première ministre lance une semaine explosive pour le gouvernement. La réforme des retraites sera bien sûr au cœur de cette interview. Dialogue ou passage en force, c'est le dilemme. L'exécutif reçoit ministre et chef de la majorité cette semaine. La CGT, de son côté, appelle à manifester ce jeudi. Êtes-vous prêt à descendre dans la rue d'ailleurs ? Mathieu Limongi vous a posé la question.
Beaucoup sont déjà prêts à se mobiliser, comme Paco, voilà 35 ans qu'il est coursier à Paris.
Moi, je serai dans la rue, ouais, c'est assez clair. Je suis dans un métier assez compliqué. C'est trop dur d'aller jusqu'à 65, c'est très compliqué.
Même sentiment chez cet étudiant.
Si c'est un métier qui vraiment ne t'intéresse pas forcément, où tu travailles juste pour avoir un salaire, ça coince. Le passage en force pose problème.
Il y a ses habitués, des cortèges et puis ceux qui vont les découvrir prochainement. Nadine pourrait bien aller manifester pour la toute première fois.
Ça pourrait commencer, pourquoi pas, se mobiliser. Moi, je suis auxiliaire depuis agriculture, donc 42 ans auprès des enfants, mal au dos, mal partout, on est fatigué quoi.
Comme Nadine, les Français descendront-ils en masse dans la rue ? Un scénario plus qu'envisageable pour l'historien Sylvain Boulouk, spécialiste des mouvements sociaux.
On pourrait avoir un mouvement social de beaucoup plus grande ampleur que celui qui a existé en 2019. Ça peut être un peu la goutte d'eau qui fasse déborder le vase, même à moins qu'une explosion des prix, la conjonction des deux peut rendre la situation explosive.
Autre scénario évoqué par l'historien, celui d'une mobilisation moins importante. À court terme, les Français pourraient bien se préoccuper avant tout de leur pouvoir d'achat.
Elisabeth Borne qui sera donc mon invitée dès 8h15 sur RMC, mais surtout votre invitée, vous venez l'interpeller très directement, vous nous appelez au 3216 avec toutes vos questions, vos témoignages sur les retraites, sur le pouvoir d'achat, les salaires, les logements, la sécurité, l'écologie, l'énergie, toutes vos questions à Elisabeth Borne, vous nous appelez dès à présent au 3216. Et juste après l'interview, Elisabeth Borne qui se rendra en Conseil des ministres, ce qui a lieu ce lundi avec la présentation du projet de loi de finances et du budget de la sécurité sociale. Parmi les propositions choc pour faire des économies, celle-ci, réduire les faux arrêts maladies, ont quand même coûté 100 millions d'euros à la Sécu. Du coup, il ne serait plus possible de se les faire prescrire en téléconsultation par un docteur qui n'est pas votre médecin traitant, si vous suivez bien. Pour Jérôme Marty, en tout cas, président du syndicat L'Union Française pour une médecine libre, cette mesure pourrait poser problème, notamment dans les déserts médicaux.
On n'effacera pas d'un trait de plume la difficulté des Français à trouver un rendez-vous auprès d'un médecin. On sait qu'il y a 6 millions de Français qui n'ont pas de médecin traitant. On sait que les médecins traitants sont sous une demande de soins qui est extrêmement importante et qui fait que souvent ils ne sont pas en capacité de répondre en temps et en heure au patient qui veut un arrêt de travail. Alors ça, on ne peut pas l'écarter comme ça. Il va falloir que le gouvernement, en urgence, rende plus attractive les professions de la médecine libérale pour qu'il y ait plus de médecins qui s'installent.
On vous en parlait sur RMC. Ils ont mis leur menace à exécution. Ces hackers qui avaient lancé un ultimatum à l'hôpital de Corbeil-Essonne. Ça y est, ils ont diffusé des données personnelles sur le Darknet. Les serveurs avaient été piratés en août. On parle de milliers de documents. L'utilisation de ces données, forcément, inquiète Damien Bancal, journaliste spécialiste dans la cyberdéfense.
Il peut y avoir des numéros de téléphone, il peut y avoir des mails, il peut y avoir des données sensibles qui peuvent permettre un cyberespionnage. Eh bien, on a plein de petits pirates qui viennent se servir dans les données diffusées. Alors, on aura un pirate qui va s'intéresser qu'au téléphone portable pour lancer des arnaques. On va prendre l'exemple au CPF. On va avoir des pirates informatiques spécialisés qu'aux adresses mail. Et donc, du coup, ils vont pouvoir lancer des phishing, des hameçonnages aux couleurs de l'assurance maladie. On va avoir des pirates informatiques simplement intéressés pour le cyberespionnage parce que, tiens, dedans, il y a un patron d'entreprise, il y a un politique.
Et le procès de Miyes va-t-il pouvoir reprendre aujourd'hui? La conductrice du bus a fait un infarctus en pleine audience. Elle est hospitalisée en soins intensifs depuis samedi, victime selon son avocat du syndrome du cœur brisé.
7h07, le foot, la France a sombré face au Danemark.
Hier à Copenhague, en Ligue des Nations, le score 2-0. Dernière répétition avant la Coupe du Monde qui commence le 20 novembre au Qatar. Et la preuve aussi que sans ses cadres, pour la plupart blessés, les Bleus galèrent, Fabrice Hawkins.
Une équipe inexpérimentée, 12 sélections seulement avant le match pour les trois défenseurs Saliba, Upamecano et Badiachil, et surtout un manque d'impact constaté par le milieu de terrain Aurélien Tchouaméni.
On a été bousculé et on a concédé deux buts qui nous ont un peu mis la tête dans le seau. Après, c'est à nous de mieux faire. Il y a eu des intentions, après on n'a pas été bon tout simplement, je pense qu'il n'y a pas d'excuse.
Au milieu justement, Kamavinga qui fêtait sa quatrième sélection a beaucoup souffert. Ce n'était pas le seul d'après Didier Deschamps.
Kama n'était pas dans les meilleures dispositions, ça peut arriver aussi. Ça n'a pas été le seul non plus. Ça lui servira comme ça servira à d'autres pour le futur, bien évidemment.
Le sélectionneur aimerait voir l'infirmerie se vider pour retrouver une équipe compétitive.
Aujourd'hui, la situation, je ne vais pas prendre d'excuses. Évidemment qu'il y a des joueurs de qualité. L'important, c'est de pouvoir récupérer toutes nos forces pour dans deux mois.
L'équipe de France aura l'occasion de prendre sa revanche sur le Danemark le 26 novembre prochain. Cette fois, ce sera la Coupe du Monde.
Et en rugby, hier soir, La Rochelle s'est inclinée face à Clermont en clôture de la quatrième journée de Top 14. Voulez-vous parler aussi du grand retour de Rihanna sur scène et pas n'importe où sur la scène du Super Bowl, incontournable concert de la mi-temps. Ça sera le 12 février 2023. C'est quand même l'événement télévisé le plus regardé aux États-Unis. Elle a bien choisi Rihanna.
Et ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas vu, non?
Ben oui, parce qu'elle a lancé sa marque.
Ah, ben oui, bien sûr, petit congé mat. On est bien content de la retrouver,
Rihanna. Et on l'embrasse, son bébé. C'est vrai qu'elle regarde Apolline.
Mais on l'embrasse très fort. Salut Rihanna, hello, nice to see you again in February, donc. C'était le journal de Marguerite Dumont, il est 7h09 sur RMC.
RMC s'engage pour vous.
RMC s'engage pour vous avec Élise Dangean. Bonjour Élise. Vous nous faites des révélations ce matin sur les implants Essure. Mais d'abord, de quoi est-ce qu'on parle exactement?
Essure, c'est un moyen de contraception définitive, un petit ressort implanté dans les trompes de Fallope, porté par près de 200 000 femmes en France suite à une déferlante de signalement en 2017. L'ANSM, l'Agence de sécurité du médicament, demande l'arrêt des implantations. En 2018, le laboratoire Bayer cesse de commercialiser le dispositif partout dans le monde. Mais 4 ans plus tard, des femmes continuent de découvrir ces effets secondaires. Douleurs abdominales, fatigue chronique, maux de tête. Ce n'est qu'en début d'année qu'Irène a fait le rapprochement entre les douleurs qu'elle endure depuis 10 ans et son implant.
Je me suis rendu compte au fil du temps que moi aussi j'étais victime de ça et que j'avais implanté une bombe dans mon corps. Sauf que là, ce qui est insidieux et ce que je trouve dégueulasse, c'est qu'ils ne fassent pas une information parce que là, ça nous rabote la vie. Et en plus... c'est quelque chose qu'on a posé en nous parce qu'on aimait la vie, parce qu'on avait envie d'en jouir avec un dispositif de contraception qui nous permettait d'avoir une sexualité épanouie. Et paf, comme toutes les autres violences gynécologiques, ça nous rabote la vie, quoi.
Alors aujourd'hui, Irène prévoit de se faire retirer son implant. 30 000 femmes en France l'ont déjà fait et elle envisage aussi d'engager des poursuites contre le laboratoire Bayer.
Et ce ne serait pas la première fois.
Oui, une action collective a même été lancée par l'association Résiste qui nous a écrit et qui regroupe les femmes victimes. Mais la justice n'a pas suivi. Comme souvent dans ce type de dossier, il est très difficile de prouver le lien entre l'implant et les effets secondaires. Pas de quoi décourager les femmes de se battre. C'est une information RMC que l'on vous révèle ce matin. Le laboratoire Bayer sera jugé par le tribunal judiciaire de Paris dans 2 semaines. 132 plaignantes réclament la reconnaissance d'un préjudice d'anxiété. Elles sont défendues par maître Charles-Joseph Houdin.
En réalité, cette procédure vise à démontrer que ces femmes ont été exposées à un risque, qu'il se soit traduit ou non par des effets indésirables. Il a au minimum engendré une inquiétude, une crainte, une peur de développer des effets indésirables. De toute façon, toutes ces procédures visent à obtenir de la part du laboratoire, mais aussi des autorités publiques, une reconnaissance du problème lié au dispositif et bien évidemment d'une meilleure information.
Et les pouvoirs publics dans tout ça, ils y disent quoi ?
Alors, ce que réclament ces femmes qui nous ont alertées, c'est d'être mieux informées et mieux prises en charge. Nous avons contacté le ministère de la Santé qui s'était engagé en septembre 2020 à lancer un protocole de recherche. Nous avons découvert que l'étude n'a toujours pas débuté. Elle ne démarrera pas avant l'année prochaine. Quant à Bayer, le laboratoire nous explique que le contraceptif a été retiré du marché pour des raisons commerciales et qu'il s'agit d'un dispositif sûr. Aux États-Unis, 39 000 patientes ont porté plainte contre Bayer qui a signé un chèque d'$1,6 milliard en 2020 pour éviter la justice.
Merci Élise. Procès de Bayer donc qui doit s'ouvrir le 3 octobre prochain à Paris et c'est une information RMC. Il est 7h12.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Dans un instant, on part à Nantes où les serveurs de 2 restaurants du centre-ville ont désormais des bombes lacrymogènes à la ceinture. Pourquoi ? Les explications de la patronne de ces 2 établissements, c'est dans un instant sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
7h14 sur RMC, on part à Nantes.
Le témoin RMC.
Avec le témoin RMC ce matin, c'est vous, Olivia Delésiné, bonjour. Vous êtes restauratrice à Nantes et plus qu'un témoignage, c'est un véritable coup de gueule que vous passez ce matin. Vous êtes propriétaire de 2 restaurants dans le centre-ville et vous expliquez que vous êtes désormais contrainte d'équiper vos serveurs de bombes lacrymogènes pour faire face à quoi ? À des agressions, c'est ça ?
Oui, c'est ça. En fait, depuis une dizaine d'années, et plutôt 5 ans, vraiment, la ville est devenue un terrain de violence et d'agression envers toutes sortes de populations, et y compris notre personnel. Mmh. Donc, j'ai mis en place une certaine chose, c'est-à-dire équiper tout mon personnel de bombes lacrymogènes, de faire des cours de self-défense et un petit porte-clés alarme qui fait 90 décibels de façon à alerter. Voilà, quand ils rentrent le soir après le service.
Parce que cette situation, vous l'avez vécue vous-même. Alors Olivia, je précise que vous tenez des restaurants à Nantes depuis 2004, donc vous l'avez vu évoluer, vous la connaissez bien la ville, on peut le dire. Oui. Vous avez vu l'évolution et une forme de dégradation, mais ce que vous dites, c'est que depuis septembre, c'est quasi quotidien. Vous-même, vous en avez été victime.
Oui, parce qu'on a été victime en fait de 3 agressions en 1 semaine à partir du 13 septembre. Moi-même, personnellement, pour une soirée et pour le reste de mes employés les 2 autres jours dont j'étais présente le 3e jour également.
Et ça s'est manifesté comment ? C'est quoi comme agression ?
Je rentrais directement de mon restaurant en direction d'un parking public, où normalement il y a un agent de sécurité. Donc je me suis fait coincer par un individu avec une patinette électrique. Et j'ai été agressée verbalement. Donc, comme je savais qu'il y avait un agent de sécurité, j'étais assez forte. Sauf qu'arrivé devant la porte du parking, il n'y avait personne. Donc là, j'ai commencé à prendre conscience que ça aurait pu être très grave. Après, j'ai un certain âge et j'ai pas trop peur, donc ça va. Par contre, après, mes employés, donc le lendemain, c'est un de mes employés que j'avais embauché le matin qui commençait à 10h. À 22h30, quand il est sorti, il s'est fait agresser par 3 individus. Il a couru sur à peu près 500 mètres pour pour partir, pour s'enfuir. Donc là, il s'est fait une déchirure musculaire, il n'est pas revenu travailler le lendemain, il m'a carrément dit que ça ne servait à rien parce que la ville était pleine de violence et qu'il avait peur, et il était tétanisé, c'est vrai. Et la troisième agression, c'est on a voulu aider des voisins qui se faisaient agresser par un individu en rentrant le soir après avoir mangé dans un restaurant. Et en s'interposant, l'individu s'est retourné contre nous, il a fait voler mes chaises et mes tables, et il est revenu deux fois de suite dans la même soirée, et le lendemain complètement à jeun, pour nous demander pourquoi on l'avait
biaisé. Et vous avez même, Olivia, des papas, des jeunes serveuses qui travaillent chez vous, qui vous ont demandé depuis cette année de les libérer plus tôt parce qu'ils craignent pour leurs filles.
Ah oui, j'ai un apprenti de 18 ans et une étudiante de 20 ans. Les deux papas m'ont demandé soit de les raccompagner, soit qu'eux viennent les chercher, ou en tout cas de les libérer
assez tôt. Mais ça veut dire, Olivia, qu'en fait, vous vous débrouillez tout seul. C'est-à-dire qu'en fait, c'est aux Nantais désormais d'assurer leur propre sécurité, quoi.
Oui, parce que ça fait partie du paysage nantais, je pense, l'agression. Enfin, c'est ce qu'on nous dit, voilà. Et qu'il y en a de moins en moins, alors que c'est pas vrai. Nous, on est sur le terrain, il y en a de plus en plus. Et j'ai beaucoup de témoignages de clientes qui me disent « Nous ne venons plus à Nantes, en centre-ville, parce qu'il y a des agressions. On a peur d'aller jusqu'au parking. » C'est le cas, hein, puisqu'on peut pas mettre nos voitures proches. C'est une ville qui devient de plus en plus piéton. C'est bien pour nous en journée, mais en nuit, c'est pas possible. C'est un terrain de jeu de violence. En tout cas, pour se diriger vers les parkings, pour nous travailler. Donc, nous travailler et nous les clients, en fait, aussi. Hein, parce que je suis cliente aussi d'autres restaurants. Et quand on sort le soir, on fait attention comment on s'habille. On fait attention comment on rentre, par quelle rue on passe. On n'est pas toute seule. Enfin, c'est...
On est obligé d'être aux aguets en permanence. Votre témoignage, Olivia de Ligné. Je vous avais appelé dès hier pour que vous puissiez témoigner. J'avais lu votre témoignage dans Ouest France. Entre-temps, une autre information, tristement, vient corréler vos témoignages. Puisque ce matin, on apprend que dans la nuit de samedi à dimanche, une Nantaise a été violée à plusieurs reprises, que trois hommes ont été arrêtés, que ça s'est passé vraiment dans le centre-ville et que des appels à manifester qui auront lieu donc samedi, une manifestation de citoyens contre l'insécurité à Nantes et donc organisée par les habitants de Nantes. Il est 7h19 sur RMC.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
L'écho sur RMC, les tarifs des péages vont-ils fortement augmenter en février prochain? Emmanuel Le Chypre nous dira tout. Et puis, il pirate le 32-16 tous les matins à 7h20. Arnaud Demange nous rejoint dans 10 minutes.
Apolline Matin.
L'indiscret RMC.
Et les indiscrets RMC, les indiscrets politiques avec Pierrick Bonneau cette semaine. Bonjour Pierrick.
Bonjour.
Vous nous parlez ce matin des reconversions des députés battus en juin dernier, trois mois après avoir quitté l'hémicycle. Qu'est-ce qu'ils sont devenus?
Je vous sens inquiète, Apolline, mais je vous rassure, sur la centaine de députés sortants qui n'ont pas été réélus, très peu sont encore au chômage aujourd'hui. Dernier recrutement en date, celui d'Éric Diard, ancien député LR des Bouches-du-Rhône. Il va devenir début octobre directeur général adjoint de la région Sud. Titre un peu pompeux pour un job de coordination du lundi au vendredi et mieux payé qu'à l'Assemblée, selon l'intéressé. La région Sud, c'est la région de son vieil ami Renaud Muselier, qui a pourtant quitté les Républicains avant les régionales pour se rapprocher d'Emmanuel Macron, mais qu'importe. Du côté de la majorité, un certain Bruno Quetel, avocat de formation, vient d'intégrer le barreau de Paris. Quant au LR Julien Aubert, il a retrouvé son fauteuil à la Cour des comptes, son job d'origine, avant, dit-il, de trouver quelque chose de plus rigolo dans le privé. Je vous avais dit, Apolline, pas d'inquiétude.
Et ça leur manque le Palais Bourbon à ces
pas vraiment, pas été. Vraiment. Je pensais que j'allais regretter, nous dit l'un d'eux. Mais quand je regarde cette espèce d'assemblée où rien ne va se décider pendant 5 ans, je me dis tant mieux, ça me fatigue pour eux. Et puis il y a le travail en circo, en circonscription, qui occupe une grande partie du mandat de chaque député. Et ça ne va pas du tout manquer à cette ancienne élue LR. Franchement, j'étais à 10-15 événements tous les week-ends dans ma circo. C'est usant. L'Assemblée Générale des Moules Frites, j'ai donné.
Exceptionnel. Les témoignages donc des anciens députés avec Pierrick Bonneau. Il est 7h21.
RMC, Apolline Matin.
Bientôt 7h30, place à l'économie.
Le chiffre d'affaires.
Le chiffre d'affaires, Emmanuel, le chiffre avec l'inflation galopante. Les prix des péages d'autoroute pourraient bondir de plus de 7 ou 8% le 1er février prochain.
Oui, alors il faut rappeler que l'augmentation des prix des péages, hein, c'est un calcul aussi automatique que compliqué, qui est prévu au début du contrat de la concession. Alors, il y a bien sûr des éléments variables, hein, qui dépendent par exemple des investissements supplémentaires qu'il faut faire, mais retenez ce principe de base, l'augmentation doit atteindre au moins 70% de l'inflation, d'où ces hausses de 7 à 8%.
Et que compte faire le gouvernement alors?
Alors, Clément Beaune, le ministre des Transports, a entamé des discussions avant l'été avec les concessionnaires d'autoroutes parce qu'il sent bien que le dossier est explosif, sauf qu'il y a peu de marge de manœuvre pour négocier. Rappelez-vous quand même 2014, hein, Ségolène Royal qui dit non, il y aura pas de hausse des péages en 2015. Elle gèle les tarifs envers et contre tout. Le problème, c'est que le gouvernement devra finalement faire machine arrière. Je rappelle quand même que la directrice de cabinet à l'époque de Madame Royal, c'est Elisabeth Borne, et elle est mieux placée que quiconque pour savoir que finalement l'accord avec les sociétés d'autoroutes, a abouti à une augmentation plus forte des prix jusqu'en 2023 pour les automobilistes, et ça leur aura donc coûté plus cher.
Et qu'est-ce qui reste comme solution alors ?
Miser sur la générosité des concessionnaires d'autoroutes, ça faut pas trop y compter.
Oui, ça j'aime bien cette idée.
Voilà.
On peut aussi croire
au Père Noël. Exactement. Ouais. Soit on négocie un allongement de la durée des concessions, c'est ce qui s'est fait déjà dans ces cas-là, soit on baisse les taxes perçues par l'État sur les prix des péages, c'est quand même 30% du prix, mais là, ça revient à faire payer le cocu magnifique qu'est le contribuable, ou bien on lisse la hausse pour les années à venir, et là, c'est l'automobiliste qui sera gros Jean comme devant, un peu comme en 2015.
On en a eu des expressions gros Jean comme devant, le cocu magnifique, et vous savez quoi, toutes ces questions, je les poserai tout à l'heure à Elisabeth Borne. Est-ce qu'elle va essayer de lutter contre cette augmentation des prix du péage ? Elisabeth Borne, mon invitée, vous le savez désormais, à 8h15 tout à l'heure sur RMC. Il est 7h25.
RMC, Apolline Matin.
Attention.
De
manche pirate, le 32-16.
Attention. Il est arrivé dans ce studio. Il pirate le 32-16. Arnaud de Manche, bonjour cher Arnaud.
Bonjour, ça va tout le monde?
Ça va très bien. Vous êtes passé au standard, oui. Au 32-16. Et aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la contraception. Je ne savais pas.
Oui.
Ça fait réagir parce que le gouvernement d'Elisabeth Borne, mon invité ce matin, vient de rendre gratuite la pilule du lendemain.
Oui, et alors on a eu des messages pleins de Ludivine, Marie, Christelle, Séverine, Fatoumata, Louane et Mélanie qui nous disent merci Madame Borne pour cette initiative, car nous avons passé la soirée de samedi avec Charles Magnien.
Et on les embrasse toutes.
On n'a pas pu résister à son charme.
Oui.
Et d'ailleurs nos mamans non plus.
Oh.
On s'est bien amusé, mais on se voyait pas mère de famille avec un papa qui part bosser à 2h du matin.
C'est vrai.
Quel charmeur,
oh là là.
Ce Charles Magnien. Nous on était naïfs, on croyait qu'il avait qu'une seule queue de cheval, et en fait.
Oh. Oh. Comment tu fais?
Ça attaque dès lundi. Hein.
Oui. On pense à Madame Magnien, bien sûr, ce matin.
Oui. On a eu un message de Méline de Paris qui nous propose 3 méthodes contraceptives gratuites. 1. Voyager dans un wagon famille Ouigo Marseille-Paris un 25 juillet avec 12 enfants. 2. Passer l'après-midi avec ta belle-sœur chez Ikea avec ses 3 gosses autodiagnostiqués HPI.
Oh ouais.
Ça veut dire hyper putain d'insupportable. Je peux le faire aussi, le diagnostic. Hein. Et 3. Mesurer la taille des valises sous les yeux de tes potes qui viennent d'avoir un bébé, oui. Et te dire que toi, t'as les mêmes valises, mais pour partir à Copacabana. Voilà. Et Bruno Le Maire nous a laissé un message.
Elisabeth, si tu m'écoutes, annule cette initiative. Faire moins d'enfants, c'est faire moins de travailleurs qui pourront cotiser pour le système de retraite. J'ai les comptes sous les yeux, avec ça, tu vas devoir mettre la retraite à 74 ans. Arrête tout. Bon, eh ben, on va avoir des arbitrages au Conseil des ministres.
Je vais lui poser la question. La retraite à 74 ans, comme Bruno Le Maire. Ah, pardon, non, c'était pas une info, zut. Arnaud De Manche, qu'on retrouve tout à l'heure exceptionnellement à 8h10 sur RMC. Il est 7h27. Il est 7h30 sur RMC et RMC Story. Bienvenue si nous vous rejoignez. Si vous nous rejoignez, c'est l'heure du journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. La petite forme très inquiétante de l'équipe de France de football battue 2-0 hier soir au Danemark, à 2 mois seulement de la Coupe du Monde. Cette dernière minute, Julien Bayou, qui démissionne de ses fonctions de secrétaire national des Verts, lui qui est accusé de violence morale. Et puis l'événement ce matin, Elisabeth Borne, invitée de RMC à 8h15, avant la présentation du projet de loi de finances et du budget de la Sécu.
On est inquiet pour nos Bleus ce matin.
Les Bleus qui ont perdu 2-0 donc hier soir au Danemark et qui nous font un peu peur, hein, 2 mois maintenant de la Coupe du Monde, surtout que c'était le dernier rassemblement des Bleus. Maintenant, ça va aller très vite avec des calendriers en plus surchargés. Le décompte, ça y est lancé, nous dit Jean Rességuier au commentaire du match hier soir sur RMC.
57 jours avant le premier match des Bleus à Doha contre l'Australie, et d'ici là aucun rendez-vous au château de Clairefontaine, aucun match de préparation. Les futurs mondialistes vont jouer avec leur club dans leur championnat respectif entre 10 et 15 matchs si l'on rajoute la Ligue des Champions pour la plupart et la Ligue Europa pour les autres. Ils seront observés par Deschamps et son staff avec l'aide des analystes vidéo de l'équipe de France. Le sélectionneur va bien évidemment croiser les doigts pour qu'il n'y ait pas de blessés d'ici le départ pour le Qatar, soit le 15 ou le 16 novembre, avec la semaine précédente la fameuse liste des 23, 24 24, 25 ou 26 joueurs, Deschamps n'a pas tranché. Une liste qui aura les honneurs du 20h de TF1, c'est la tradition. Une Coupe du Monde en hiver avec des températures entre 23 et 30 degrés. Les Bleus auront 5-6 jours pour s'y habituer avant de débuter le tournoi.
Il est 7h32 sur RMC et on apprend donc ce matin la démission de Julien Bayou, secrétaire national des Verts, président du groupe aussi à l'Assemblée. Il l'annonce ce matin dans un communiqué, lui qui était accusé de violence morale par une ex-compagne. L'ancien candidat à la présidentielle, Yannick Jadot, l'avait appelé dans le week-end à se mettre en retrait pour la sérénité de l'enquête. C'est donc chose faite ce matin, mais il reviendra plus en longueur tout à l'heure dans le journal à 8h sur RMC. L'événement du jour pour l'heure, c'est dans 45 minutes maintenant, Elisabeth Borne, l'invitée de RMC. Et de vous au 32-16 de 8h15 jusqu'à 9h, la Première ministre qui vient lancer une semaine à risque, on peut dire ça comme ça, pour le gouvernement, avec la présentation des textes très attendus du projet de loi de finances et du budget de la Sécu, avec ou sans réforme des retraites, avec ou sans passage en forme, c'est toute la question. La majorité est divisée sur le sujet, le patron du Modem, François Bayrou, continue d'ailleurs de mettre la pression sur le gouvernement.
On n'est pas aux pièces. Prendre 3 ou 4 mois pour réfléchir ensemble, mettre sur la table des faits et des options et des propositions, moi je pense que ça serait bon, pas seulement pour la paix civile, ça compte, mais pour la réforme elle-même. Parce que derrière tout ça, il n'y a pas que la question des retraites, il y a la question de la méthode de réforme qu'on peut suivre pour le pays.
Voilà, le 49-3 n'est pas un gros mot, mais le gouvernement doit être à l'écoute. Voilà ce que dit ce matin dans le journal Le Parisien, la présidente de l'Assemblée, Yael Braun-Pivet, à propos d'un éventuel passage en force, elle qui va diriger donc les débats dans quelques semaines à l'Assemblée. L'extrême droite française salue ce matin la victoire de l'extrême droite aux législatives en Italie. Extrême droite menée là-bas par l'admiratrice de Mussolini, Giorgia Meloni, entre 40 et 45% des voix pour la coalition d'extrême droite, selon les estimations, coalition qui promet des baisses d'impôts, qui promet le blocage des migrants, la priorité aux valeurs chrétiennes également. Première fois, disent les politologues italiens, que l'extrême droite fait un tel score depuis 45 en Europe. Romain Cluzel, en Italie, à Rome précisément pour RMC, nous explique ce que les Italiens attendent désormais.
Cette victoire nette de Fratelli d'Italia, c'est un aboutissement pour les militants de longue date.
Je suis vraiment heureuse.
Rosanna est adhérente du parti depuis 8 ans. Avec Giorgia Meloni au pouvoir, cette traductrice espère un changement dans l'économie italienne.
Le plus que je veux, c'est vraiment ce qu'il a dit d'abaisser les impôts. Pour les entreprises, c'est très difficile parce que les impôts sont très hauts.
Moins d'impôts et une renégociation des accords européens, c'est ce qu'attend Sandro.
C'est une nouvelle ère pour l'Italie, mais surtout une nouvelle ère pour l'Europe. C'est la fin des gouvernements de technocrates. Bon, on verra si le programme sera respecté.
L'exercice du pouvoir, Giorgia Meloni va désormais s'y confronter. Le plus dur commence pour elle, estime Lorenzo Desio, professeur de sciences politiques à la LUIS.
Elle aura besoin d'une équipe dirigeante capable de s'occuper des ministères, des relations avec l'administration. Et pour cela, il faut des compétences et de l'expérience. Et ça, c'est certainement le défi le plus complexe pour le parti de Giorgia Meloni.
Et pour former son gouvernement, Giorgia Meloni devra aussi composé avec les autres membres de sa coalition, la Ligue de Matteo Salvini et Forza Italia de Silvio Berlusconi.
C'est le monde entier qui se mobilise pour soutenir la révolution féministe en Iran depuis la mort d'une jeune femme détenue par la police des mœurs parce qu'elle ne portait pas correctement son voile. Ça, c'était hier. Hier, donc, à Paris. Hier après-midi, la police qui a utilisé du gaz lacrymogène pour empêcher des milliers de manifestants qui s'approchaient de l'ambassade iranienne. 5 policiers blessés et 12 interpellations également à Londres où il y avait d'autres manifestations. La reprise du trafic espérée en ce début de semaine à l'aéroport de Montpellier, mais ce n'est pas certain du tout. Aéroport paralysé depuis la sortie de piste d'un avion de fret, c'était dans la nuit de vendredi à samedi. Peut-être à cause de la météo, c'est une piste qui est envisagée. L'appareil de 70 tonnes est déplacé à l'aide d'immenses grues qui ont été installées depuis hier après-midi. Il n'y a pas qu'à la campagne, les villes aussi sont touchées par la disparition des services publics. Même la capitale, 42 bureaux de poste ont fermé depuis 8 ans à Paris. 3 autres sont menacés prochainement, comme celui de la rue Marcadet. C'est dans le 18e arrondissement de Paris. Une réunion est prévue ce matin et Rémi Inks s'y est rendu pour RMC.
La nouvelle s'est très vite répandue dans le quartier.
Les gens, ils ont des besoins déjà. C'est quoi l'intérêt de la fermer ?
Colère, incompréhension des habitants devant cette possible fermeture.
C'est pas une bonne pratique parce que je pense que pour le quartier, c'est important.
Ça sent la fin de quelque chose. La désertification un peu arrive à Paris.
Le but étant de faire des économies par tous les moyens. Ils prennent des décisions qui sont au détriment des gens qui ont besoin de services de proximité.
La Poste explique adapter sa présence au regard notamment de la fréquentation. Et sur cette agence, une baisse de 35% des opérations a été constatée ces 8 dernières années. Barbara Gomez, élue du 18e arrondissement, refuse cet argument.
On n'est pas sur une logique économique. Il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui ont besoin de ce service. Ce service doit rester.
Autre argument, 60 nouveaux relais commerçants ont été mis en place pour des horaires plus souples. Barbara Gomez.
La Poste se décharge d'une partie de sa mission de service public sur des salariés du privé sans se préoccuper de savoir s'ils vont être correctement formés, s'ils vont être correctement rémunérés et si du coup cette externalisation se passe dans de bonnes conditions.
Des discussions avec la mairie de Paris et celle du 18e arrondissement sont toujours en cours sur cette fermeture.
Et puis je vous signale que les Européens ont perdu la Laver Cup de tennis, victoire du reste du monde 13-8 pour la première fois. D'ailleurs, c'était la 5e édition, édition marquée par les adieux de Roger Federer qui a perdu pour son dernier match. C'était vendredi en double avec l'Espagnol Rafael Nadal.
Et le quintet, Quentin, c'est à Lyon.
13h50 en début d'après-midi sur RMC Découverte. Voici les pronostics de la Dream Team des courses RMC ce matin. Le 16, le 13. Le 16, Eliska Berry en favori. Le 13, Elan Baroque en outsider.
C'était le journal de Quentin Vinet, 7h37 sur RMC.
RMC, 6h39h.
Apolline Matin.
La réforme des retraites, il faut la faire. Voilà ce qu'explique le gouvernement. Mais ce n'est pas du tout votre avis. François Auméril, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes dans ce studio, vous êtes le président de la CFE-CGC, le syndicat des cadres. Pas vraiment habitué aux manifs, mais ça pourrait changer. Vous allez nous le dire dans un instant. Et puis on vous attend au 32-16. Est-ce que vous irez manifester contre cette réforme ? Ou alors est-ce qu'il faut la faire, tout simplement, cette réforme des retraites ? Charles, ça fait réagir au 32-16.
Ça fait réagir au 32-16. On surveille aussi vos messages sur Direct Studio. Toutes vos questions à la Première ministre, vous les posez en direct ce matin sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h41 sur RMC.
L'invité du jour.
C'est donc vous, François Auméril, rebonjour. Vous êtes le patron des cadres, en fait, président de la CFE-CGC. C'est le syndicat de l'encadrement, comme vous dites. Il y a cette réforme des retraites. Emmanuel Macron dit on va la faire. Alors, on ne sait pas très bien s'ils vont la faire un peu en catimini, en la glissant dans le budget dès le mois d'octobre, ou si ce sera fait de manière plus classique par une loi discutée au Parlement à la rentrée après janvier. Mais enfin, quoi qu'il arrive, ils disent qu'ils la feront. Et pour la première fois, vous, les cadres, vous voulez vous mobiliser contre.
Bah, je ne sais pas si c'est la première fois. Déjà, nous étions assez opposés à la réforme systémique qui nous a été proposée au début de l'année 2020. Mais effectivement, on est défavorable à ce type de réforme, et notamment au décalage de l'âge légal de la retraite de 62 à 65 ans.
Et pourquoi ?
Bah, parce que rien ne justifie de le faire aujourd'hui. Moi, souvent, je rappelle, et notamment je l'ai fait il y a deux semaines au ministre du SOPT, je lui ai dit, mais écoutez, je pense que notre parole est assez crédible parce que nous, à la CFE-CGC, nous avons accompagné les dernières réformes, les quatre réformes très importantes qu'il y a eu depuis 30 ans pour justement pouvoir sauvegarder le régime par répartition. Or là, aujourd'hui, ça n'est pas nécessaire.
C'est la réforme de trop.
C'est vraiment la réforme de trop et surtout, c'est la réforme qui vient attaquer les salariés, qui vient attaquer les futurs retraités pour pouvoir leur prendre de l'argent, finalement, pour financer d'autres projets qui n'ont rien à voir avec l'équilibre des comptes
s'agissant des régimes de retraite. Parce qu'en effet, la nouvelle justification, et pour le coup, je ne crois pas que c'était vraiment dans le vocabulaire affiché du chef de l'État ou de la Première ministre, la nouvelle justification désormais, c'est de dire, si on ne fait pas cette réforme des retraites, si on ne repousse pas l'âge de départ à la retraite, ben, on ne pourra pas financer les hôpitaux, en gros.
Oui, c'est exactement ça. D'une certaine façon, on ne peut pas leur reprocher d'avoir menti, au moins sur la justification. Mais ça ne rend pas le projet acceptable en tant que tel. Nous, on considère que le régime de retraite par répartition, c'est un régime autoporté, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller chercher de l'argent dans ces différents régimes, que ce soit sur les équilibres ou sur les réserves, pour financer d'autres choses qui n'ont rien à voir avec la retraite.
La retraite, c'est des cotisations qui servent à payer les retraites, quoi. Point barre, en fait. C'est pas pour vous une manne sur laquelle il faudrait aller puiser pour d'autres projets. Alors, ce que dit le gouvernement, c'est qu'ils ont besoin, en gros, ça rapporterait à peu près 10 milliards cette réforme, de repousser donc de 2 ans l'âge de départ. S'ils ne repoussent pas et qu'ils n'ont pas donc ces 10 milliards, ils iront les chercher ailleurs et notamment avec des hausses d'impôts.
Ça dépend de qui on va augmenter les impôts. Moi, j'observe que l'année dernière, il a été distribué 70 milliards de dividendes dans les grandes entreprises du CAC 40, qui par ailleurs ont racheté des actions, ce qui est de la destruction de valeur. Alors moi, j'aimerais bien savoir quel est le problème aujourd'hui sur le partage de la valeur. Qu'est-ce qui empêche le gouvernement d'aller d'une certaine façon rechercher de l'argent, puisqu'il en a besoin, puisqu'il a besoin de dégager des marges de manœuvre budgétaires. C'est la phrase dans la novlangue aujourd'hui. Eh bien, il y a quand même sur l'ensemble des dispositifs qui créent de la valeur en France et qui, d'une certaine façon, en reprennent une partie, il y a, je pense, d'autres endroits que les seuls salariés pour mettre à contribution.
Ce que je trouve assez intéressant et passionnant aussi dans votre point de vue, c'est que depuis 2-3 jours, régulièrement, ici, et Charles en est témoin, on a posé la question des retraites à tous ceux qui nous écoutaient. La plupart du temps, ce sont des gens qui ont un travail très pénible et qui disent, nous, la pénibilité ne va pas être suffisamment prise en compte, on a commencé à travailler très jeune, on travaille dans des conditions extrêmement difficile. C'est pas vous faire insulte que de dire que les cadres ne sont pas forcément dans cette situation-là. Et pourtant, vous êtes opposé, vous aussi. C'est-à-dire qu'il y a une forme de solidarité là, de tous les salariés, qu'ils soient à quelque niveau de l'entreprise que ce soit, pour dire non, en fait, il n'y a pas de raison qu'on bosse plus longtemps.
Bah non, puis en plus, c'est quand même une attaque assez systémique au régime de retraite par répartition et en son principe, justement, vous l'avez rappelé, de cotisation des actifs vers ceux qui sont aujourd'hui en retraite. Vous savez, les salariés, ils ont déjà beaucoup payé pour sauvegarder leur système. Aujourd'hui, en tendance, et dans les 20 années qui vont suivre, le niveau de revenus des retraités va baisser d'à peu près 20%. Et ça, c'est la conséquence des réformes déjà passées, les réformes que nous avons voulu, justement, pour sauvegarder ce régime. Et donc, je trouve quand même assez mal placé le gouvernement pour venir dire, bah, finalement, votre régime, il est assez bien géré, il y a encore aujourd'hui beaucoup de réserves, et bien, je vais aller ponctionner dedans pour pouvoir financer mes projets. Bah, je suis désolé, non, c'est pas acceptable.
Ça n'est pas acceptable, et voilà votre parti pris ce matin. François Auméril, vous êtes donc le président du syndicat des cadres, la CFE-CGC, et on le comprend bien pour vous, c'est tout simplement la réforme de trop. Ben, je porterai cette question évidemment tout à l'heure auprès d'Elisabeth Borne, qui sera mon invitée à 8h15. Est-ce qu'il faut réformer le système des retraites? Est-ce qu'il y a urgence? Si j'en crois votre point de vue, en tout cas François Auméril, il n'y a donc pas urgence. Il est 7h46, vous aussi au 32-16, vous nous appelez pour interpeller la Première Ministre. Olivier est avec nous depuis le Finistère. Bonjour Olivier.
Oui, bonjour.
Olivier, vous nous avez appelé ce matin plutôt en tant que père de famille, c'est bien ça? Vous avez une question pour la Première Ministre?
Oui, tout à fait. En fait, je voudrais savoir ce qui va être prévu pour les étudiants, pour les aider avec l'augmentation du coût de la vie, que ce soit l'alimentation, les énergies, les montants des loyers, etc. En fait, voir qu'est-ce qui va être proposé pour les aider aujourd'hui.
Vous avez deux enfants qui sont étudiants, c'est ça, Olivier?
Oui, tout à fait, oui.
Et c'est quoi leur situation? Vous les aidez le plus possible, mais vous sentez bien que c'est compliqué?
J'en ai un qui est parti du coup en études sur Nantes, donc il a fallu trouver un logement. Ouais. Et donc forcément, ça occasionne des frais supplémentaires. Et en fait, moi, dans ma position, je suis dans la classe moyenne. Donc en fait, j'ai le droit à quasiment aucune aide. Donc mon fils n'en bénéficie non plus. Et au final, moi, mon salaire n'augmente pas, mais pour autant, il faut que j'aide mon fils aussi pour qu'il puisse subvenir à ses besoins et qu'il puisse continuer à faire ses études. Donc aujourd'hui, on arrive dans une situation qui est un peu compliquée et qui va ne pas s'arranger.
Et ne pas s'arranger, en effet, avec donc deux enfants étudiants. C'est intéressant ce que vous dites, Olivier, parce que c'est toujours cette question de est-ce qu'on est juste au-dessus des aides? Et dans ces cas-là, bah oui, si le coût de la vie pour votre fils, dans un sens, j'ai envie de dire, il n'y est pour rien que vous soyez plus modeste ou plus confortable dans la vie. Et c'est toujours la difficulté aussi vis-à-vis des étudiants. Donc, votre question, Olivier, à la Première Ministre, qu'allez-vous faire pour les étudiants face à la hausse de l'énergie et à la hausse des prix de l'alimentation? Merci, Olivier. Comme Olivier, vous nous appelez au 32-16. Vos témoignages, vos questions, je les porte tout à l'heure à la Première Ministre. Et puis vous nous appellerez pendant l'interview au 32-16 pour pouvoir l'interpeller le plus directement possible. Il est 7h48.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et dans un instant, Nicolas Poincaré, l'Italie, pays fondateur de l'Union européenne, vient de choisir le chef de gouvernement le plus à droite depuis le dictateur Benito Mussolini. Giorgia Meloni devrait être nommée Première Ministre. Quelles conséquences pour l'Italie? Les explications de Nicolas Poincaré, c'est dans un instant.
Apolline Matin.
Le bonus RMC.
Le bonus, Charles.
À votre avis, Apolline, quel est le point commun entre Zlatan Ibrahimovic, la chanteuse Angèle et Pierre Richard?
Voilà.
Elle est dure celle-là. Eh bien, ils jouent tous dans le prochain volet des aventures d'Astérix au cinéma. Et oui, une première bande-annonce a été mise en ligne hier pour cet Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, film très attendu, réalisé par Guillaume Canet. Alors, contrairement au précédent film, celui-ci n'est pas inspiré d'une des BD d'Astérix. L'histoire se déroule en Chine, a été imaginée, écrite par les auteurs des Tuches. Guillaume Canet va non seulement réaliser, mais aussi incarner Astérix. À ses côtés, c'est Gilles Lellouche qui endossera le costume d'Obélix. On verra aussi Vincent Cassel en Jules César.
Je vais devenir le nouvel empereur de Chine.
Mais ça suffit cette histoire!
Les Gogos, les Gaulois, sortis en salle le 1er février 2023 pour ce casting de stars. Tu l'as.
Bonne nuit, monsieur, je sais tout.
Bonne nuit, monsieur, j'ai un nouveau meilleur copain.
Bonne nuit, monsieur, je mange des légumes. C'est bon les légumes, c'est bon.
RMC, Apolline Matin.
7h51, c'est l'heure de Nicolas Poincaré.
Expliquez-nous.
Expliquez-nous, Nicolas Poincaré. En Italie, la coalition des droites a largement remporté les élections législatives hier. Et donc, c'est une femme d'extrême droite, Giorgia Meloni, qui pourrait devenir présidente du Conseil.
Et oui, théoriquement, oui. Giorgia Meloni s'est largement imposée dans la soirée. Elle s'est présentée sur scène au siège de son parti avec une grande pancarte disant « Merci l'Italie ». L'alliance des trois partis de droite et d'extrême droite obtient entre 40 et 44% des voix. Le parti qu'elle-même a fondé, Fratelli d'Italia, est désormais le premier parti d'Italie avec entre 22 et 26% des suffrages. En termes de sièges, cette coalition remporte une très large majorité à l'Assemblée et au Sénat. La logique, effectivement, voudrait donc que Giorgia Meloni devienne la prochaine première ministre.
Elle serait la première femme à diriger l'Italie.
Oui, première femme à diriger un grand pays européen latin, mais l'Italie serait aussi et surtout le premier des grands pays fondateurs de l'Europe dirigé par l'extrême droite, ce qui naturellement marque une nouvelle percée des populistes et des nationalistes en Europe après la réélection triomphale de Viktor Orban en Hongrie et après la victoire en Suède d'une coalition soutenue par l'extrême droite. Giorgia Meloni préside un parti qu'elle a fondé et que les commentateurs italiens qualifient de post-fasciste, c'est-à-dire un parti qui a été créé avec des héritiers de Mussolini mais qui a su récemment se démarquer de la droite la plus radicale. Sa devise, c'est Dieu, patrie, famille. Giorgia Meloni a promis de protéger les familles contre le lobby LGBT et de protéger l'Italie contre l'islamisation. Les questions d'immigration étaient au cœur de sa campagne.
Et qu'est-ce qui a fait le succès de Giorgia Meloni?
Alors ça s'est sans doute fait en deux temps. D'abord, il y a eu la création de cette alliance de trois partis, condition indispensable pour pouvoir espérer gagner. Ces trois partis sont donc les Frères d'Italie de Giorgia Meloni, la Ligue de Matteo Salvini et Forza Italia, le parti de l'insubmersible Silvio Berlusconi, 86 ans. C'est un peu, et même beaucoup, comme si en France, on avait eu aux législatives une alliance du Rassemblement National, de Reconquête d'Éric Zemmour et des Républicains. Et puis ce qui s'est passé dans un deuxième temps, c'est qu'au sein de cette alliance, c'est Giorgia Meloni qui s'est imposée, parce qu'elle a fait une bonne campagne, parce qu'elle s'est dédiabolisée, qu'elle a mis de l'eau dans son vin, mais aussi parce que ses partenaires se sont effondrés. Matteo Salvini a été rattrapé par son amitié avec Poutine et par des soupçons de financement de son parti par les Russes. Quant à Berlusconi, il a fait du Berlusconi. Il a plaisanté sur son succès auprès des femmes et sur son goût pour les très jeunes femmes, alors que ça fait maintenant quelques années que ces pitreries ne font plus rire les Italiens. Résultat, Forza Italia a fait moins de 8% des voix, la Ligue de Matteo Salvini à peine plus de 8% et Giorgia Meloni beaucoup plus que ses deux partenaires réunis. C'est donc une victoire par chaos.
Qu'est-ce qu'il attend désormais?
Alors, elle va devoir d'abord faire ses preuves parce qu'elle n'a qu'une très petite expérience de gouvernement. Elle n'a été que brièvement ministre de la Jeunesse. Elle va devoir essayer de durer, ce qui sera difficile avec ses deux partenaires, Berlusconi et Salvini, qui l'attendent au tournant. Elle va sans doute donner des gages à ses électeurs en prenant des premières mesures contre l'immigration et pour la natalité et pour les familles. Et puis, elle va devoir gérer une situation économique difficile. L'Italie a la dette la plus importante d'Europe après la Grèce. Et c'est pour cela qu'il va falloir qu'elle compose avec l'Europe. Elle ne peut pas se passer du plan d'aide de Bruxelles et du milliard de plans de relance. La semaine dernière, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, avait laissé entendre qu'elle allait en quelque sorte surveiller l'Italie et qu'en cas de manquement à l'état de droit, eh bien l'Europe dispose d'instruments, une forme d'ingérence qui a été très très mal vécue en Italie. En tout cas, les Italiens ont répondu, ils ont voté hier pour l'extrême droite. Ils ont voté pour l'extrême droite plus qu'aucun pays européen ne l'avait jamais fait depuis la Deuxième Guerre mondiale.
Les explications de Nicolas Poincaré. Il est 7h55. Vous restez avec nous dans un instant. La météo et le journal, et à la une du journal de 8h, Julien Bayou qui démissionne.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.